RFI 9h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. Et tout de suite, on vous retrouve Nemo en piste pour le journal.
Voilà, un mois, Kalou Badra Sakho a été enlevé au Mali par la sécurité d'État. Depuis, aucune nouvelle du président du collectif Touche pas à mon argent et ses camarades, par peur de représailles, restent impuissants et muets face à la situation. Sa famille n'a pas de nouvelles. C'était la fête hier au QG de campagne de Brice-Clotaire Oligingema à Libreville après l'annonce des premiers résultats de la présidentielle de la veille. Effusion de joie chez ses partisans, plus de 90% des voix selon le ministère gabonais de l'Intérieur et des miettes, à peine pour les 7 autres candidats. Nouvelle visite d'un ministre français au Maroc, c'est au tour de Bruno Retailleau à l'intérieur de passer par le Royaume. Énième signe, s'il en fallait, du rapprochement entre les deux pays. Pendant ce temps, là aussi, énième crispation entre Paris et Alger, vous l'entendrez. Et puis, c'est un projet vieux de 8 ans qui touche enfin à sa fin. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing d'Abidjan, c'est du passé. Place au boulevard Félix Houphouët-Boigny, au plus grand bonheur des habitants qui voient d'autres noms changer dans la ville. Cela fait un mois ce lundi qu'il est détenu dans une prison secrète de la sécurité d'État. Alou Badra Sakho, figure de la société civile malienne, président notamment du collectif Touche pas à mon argent et coordinateur de l'appel du fin 20 février pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Enlevé donc le 14 mars dernier en pleine rue à Bamako, il venait à peine d'organiser une réunion pour contester les nouvelles taxes instaurées par les autorités de transition sur les services téléphoniques. Pour le moment, sa famille et ses proches n'ont reçu aucune nouvelle. Leurs camarades militants, eux, ne peuvent qu'exprimer leur désarroi. Plus de détails avec David Baché.
Non seulement nous n'avons aucune information, explique un camarade de lutte d'Alou Badra Sakho, mais les gens ont tellement peur que personne n'entreprend rien. La peur, objectif recherché et qui atteint son but. Un mois après l'enlèvement du président de Touche pas à mon argent par la sécurité d'État, ni sa famille, ni son réseau militant n'ont eu aucune nouvelle. Seul événement notable, la tentative d'enlèvement d'un autre membre du collectif, Mamadou Sidibé, qui a échappé le 25 mars aux agents des services maliens grâce à l'intervention des riverains. Des contacts ont été établis avec des organisations de défense des droits humains, mais pas d'action en justice, pas de mobilisation publique. On s'organise avec les moyens du bord, ajoute un autre camarade qui tient à exprimer sa détermination. Mais la situation effraie tout le monde. La terreur n'est pas un abandon. Âgé d'une soixantaine d'années, atteint d'hypertension et de diabète, Alou Badra Sakho vient de passer un mois dans une geôle secrète de la sécurité d'État. Il aurait pu rentrer chez lui la semaine dernière, confie à RFI une source sécuritaire malienne. Mais son ton n'a pas changé, il ne fléchit pas. S'il est libéré, poursuit cette source, il reprendra la contestation. Une attitude qui lui vaut d'être toujours détenu.
Plus de 90% des suffrages exprimés, 90,35% précisément selon les chiffres du ministère de l'Intérieur au Gabon. Victoire écrasante à la présidentielle de Brice-Clotaire Oligingema, un plébiscite pour celui qui s'est emparé du pouvoir à la suite d'un coup d'État en août 2023. Lui qui a assisté à l'annonce de ses premiers résultats à son QG de campagne au milieu de ses partisans. Yves-Laurent Goma a assisté à ce moment.
Arrivée triomphale de Brice-Clotaire Oligingema et son épouse Zita au QG de campagne. Assis en face d'un écran géant, Oligingema a suivi en direct la publication des résultats. La foule a exulté dès l'annonce de la victoire du général qui a mis une pause dans sa carrière militaire. L'euphorie a gagné les adeptes de l'ancien putschiste devenu président élu.
Il n'y a pas de char, le wifi passe 24 sur 24.
Les gens font comme si on était le 31 août, on attendait le 1er janvier. C'est quand même exceptionnel, c'est spirituel.
Nous sommes plus que satisfaits de ce qui est en train de se vivre et se passer au Gabon. Après près de 20 ans, c'est aujourd'hui qu'on participe à une élection sans enlèvement, sans agression, sans vol, sans bagarre entre les civils et les agents de sécurité. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau Gabon, c'est un Gabon d'espérance.
Dans une brève allocution, Oligingema a demandé à tous les Gabonais de tourner la page de la campagne électorale et de reprendre le travail dès ce lundi pour bâtir le Gabon digne d'envie qu'il leur a promis. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et les sept autres candidats malheureux ont, eux, 8 jours désormais pour saisir la Cour constitutionnelle. Quant au taux de participation estimé aux alentours de 87% à la sortie des urnes, il a été revu à la baisse. 70,4% fait savoir le ministère de l'Intérieur. Vous réagissez, vous aussi, à l'élection présidentielle gabonaise dans une grosse demi-heure avec Juan Gomez dont appel sur l'actualité. José Plia est mort, chargé de mission aux arts et à la culture de Patrice Talon, le président béninois. Il avait d'abord dirigé l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement avant de devenir chargé de mission. Il est décédé à l'âge de 58 ans à Miami aux États-Unis. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo qui bénéficie d'un nouveau médiateur, Fornia Singbe, le président togolais, succède ainsi à son homologue angolais João Lourenço, lui qui a passé la main le mois dernier après avoir pris le poste en 2022. Un nouveau représentant français au Maroc, après Emmanuel Macron, le chef de l'État, après Rachida Dati, la ministre de la Culture, et après le mois dernier, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. C'est au tour de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, d'effectuer une visite de travail dans le Royaume. Visite express de 24 heures. Il a atterri hier soir. Paris et Rabat renforcent ainsi encore leur partenariat au programme de cette visite. Coopération migratoire, lutte contre le crime organisé et contre le trafic de drogue. RFI Casablanca, Mathias Reynal.
C'est une visite de suivi dans le sillage de celle du président Emmanuel Macron qui était au Maroc fin 2024. Après des années de brouille, Paris et Rabat s'étaient retrouvés pour annoncer le lancement d'un partenariat d'exception renforcé sur le plan sécuritaire et notamment migratoire. Cela s'est déjà traduit par une augmentation du nombre de laissez-passer consulaires. Ces documents nécessaires pour faire appliquer les obligations de quitter le territoire français. Bruno Retailleau sera reçu aujourd'hui par son homologue marocain Abdelwafi Laftit, qu'il avait déjà pu rencontrer lors de la visite d'État française d'octobre dernier. Le locataire de la place Beauvau faisait évidemment partie de l'importante délégation présidentielle. Côté français, on loue la très grande qualité du dialogue migratoire entre Paris et Rabat. Bruno Retailleau est au Maroc pour faire le point sur les résultats obtenus et pour tenter de renforcer encore cette dynamique. Les ministres de l'Intérieur des deux pays doivent signer une feuille de route conjointe à l'issue de cette visite de travail qui doit aussi permettre d'accentuer la coopération contre le crime organisé, le trafic de drogue, la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des grands événements sportifs seront aussi parmi les thèmes abordés. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Et c'est dans ce contexte que les relations entre la France et le voisin du Maroc, l'Algérie, elles se crispent une nouvelle fois. Une semaine maintenant après la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Alger, Paris déplore que l'Algérie demande le départ de 12 agents français sous 48 heures. Il s'agirait, selon le Quai d'Orsay, d'une réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants algériens juste avant le week-end. 3 hommes, dont un employé d'un consulat algérien, suspectés notamment de séquestration et d'enlèvement. Alger en parle comme d'un nouveau développement inadmissible et inqualifiable. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours, a dit Jean-Noël Barrot. Le Maroc, on en parlait, l'historien Mahati Mounjib a arrêté ce dimanche sa grève de la faim débutée la semaine dernière jeudi pour protester contre son interdiction de quitter le pays. Sa situation n'est toutefois pas réglée. Ce défenseur des droits humains est toujours, à l'heure où l'on parle, suspendu de son travail. Ses avoirs, eux, sont gelés. Mahati Mounjib, qui avait pourtant été gracié en juillet 2024 après sa condamnation en 2021 pour fraude et atteinte à la sécurité de l'État. Il est également poursuivi dans une autre affaire de blanchiment d'argent. Mahati Mounjib qui dénonce ce matin un acharnement contre lui et en appelle au roi Mohamed VI. Je vous propose de l'écouter.
J'ai voulu m'adresser au roi du Maroc qui a donc signé une grâce. Et tout simplement, je ne comprends pas qui gouverne au Maroc. Parce que depuis 9 mois que la grâce royale a été publiée, je suis toujours objet de persécutions, d'interdictions de quitter le territoire. Ma maison, ma voiture, mon compte bancaire sont toujours gelés, alors que geler un bien ne peut pas durer plus de 2 mois, légalement. Aussi, l'interdiction de quitter le territoire ne peut pas dépasser 2 mois renouvelables 5 fois, c'est-à-dire 1 an. Je suis aussi renvoyé, alors que la grâce royale explicitement couvre mon renvoi de l'université, donc je dois être réintégré dans mes droits de professeur d'histoire à l'université de Rabat. Disons, les pressions continuent et ils veulent en fait que je baisse la tête. Et moi, je vous le dis, je n'arrêterai jamais mon travail pour les droits de l'homme et pour les libertés au Maroc. C'est de la persécution exercée par la police politique qui gouverne en fait au Maroc, depuis la maladie du roi.
Le Marocain Mahati Monjib, défenseur des droits humains, il était joint par Pierre Firsion, Radio France Internationale, 7h40 à Abidjan, la fin de ce journal en Côte d'Ivoire où il va falloir s'y habituer, oublier le boulevard Valéry Giscard d'Estaing d'Abidjan, il faut désormais l'appeler le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Un nouveau nom inscrit sur les plaques en cours d'installation sur cette artère vitale de la ville, comme dans d'autres voies de la capitale économique. Dernière étape, peut-être la plus symbolique du projet d'adressage du district d'Abidjan, démarré il y a 8 ans maintenant, des travaux suivis par notre correspondant Benoît Almeras sur le boulevard donc Houphouët-Boigny.
Casque blanc sur la tête et gilet jaune sur le dos, une dizaine d'ouvriers fixent les nouveaux panneaux sur les trottoirs.
Le panneau indique que c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny.
Près de 400 plaques orange vif vont être posées sur les 8 km du boulevard. Objectif, afficher son nouveau nom adopté depuis 2023. Les passants saluent ce changement visible.
Ce boulevard est un boulevard d'histoire. Il traverse pratiquement tout Abidjan. C'est une façon de rendre hommage au tout premier président. Et aussi, ça africanise un peu aussi quelque part. Les noms.
Ça fait plus ivoirien parce que là, on aura le nom de nos dirigeants ici.
Au total, un peu plus de 14 000 voies, rebaptisées ou non, vont avoir des panneaux flambant neufs. Orange pour les boulevards, vert pour les avenues, bleu pour les rues. Reste que les anciens noms sont encore très utilisés. D'ailleurs, sur les GPS comme Google Maps, le boulevard Félix Houphouët-Boigny s'appelle toujours VGE. Adolphe Nguessan gère le projet d'adressage du district d'Abidjan.
Dans cette plateforme-là aujourd'hui, c'est deux noms qui habitent. Avec la pose des plaques, je pense que l'appropriation devrait s'améliorer jusqu'à une certaine période où les anciens noms vont totalement disparaître.
Et des projets d'adressage sont également en cours à Yamoussoukro, Daloa et Korogo. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et c'est à Abidjan où il est 7h42 que se referme cette édition.
Merci Nemo en Peace, prochain journal sur RFI dans un petit peu moins de 20 minutes. Restez avec nous.